Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
L'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel est aujourd'hui en sécurité, c'est ce qu'a affirmé son avocat ce jeudi soir sur notre antenne. Son client qui a quitté ses fonctions reste forcément marqué par ce qu'il s'est passé. Vous l'entendrez, maître Francis Leck, dans un instant. Un reportage exclusif CNews dans ce journal dans le cadre des opérations anti-drogue. Nous avons pu embarquer avec les policiers de Dijon. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est rendu sur place pour suivre cette opération. Nous avons également pu nous rendre dans un immeuble contrôlé par les dealers, vous le verrez. Près d'une semaine après l'attentat de Moscou, la Russie accuse une nouvelle fois l'Ukraine de cette attaque. Les enquêteurs russes affirment que les auteurs de l'attaque avaient des liens avec les nationalistes ukrainiens. Et de son côté, Kiev dément toute implication dans ce massacre. Et puis le Haut-Vernay revit la disparition du petit Émile. Sa famille, des voisins et des témoins se sont réunis sur place ce jeudi pour une mise en situation. Au total, 17 personnes ont été convoquées par la justice pour reconstituer le moment où l'enfant de 2 ans et demi a disparu. C'était le 8 juillet dernier. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. L'avocat de l'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel s'est donc exprimé sur notre antenne ce jeudi soir. Son client qui a quitté ses fonctions a très mal vécu ce qu'il s'est passé. Pour rappel, cet ancien proviseur a été menacé de mort par une élève à qui il avait demandé de retirer son voile islamique. Selon maître Francis Leck, son client a tout simplement été victime d'un mensonge. Mais aujourd'hui, il se sent en sécurité. Je vous propose donc d'écouter ce qu'il a affirmé sur notre antenne.
Pendant plusieurs semaines, il a subi un état d'anxiété. Il est évidemment agréablement submergé par tout le soutien qu'il a reçu des professeurs, des parents d'élèves, qui, évidemment, se sont aperçus qu'il avait été victime, une première victime d'un mensonge éhonté d'une élève. Tout est parti dans l'affaire Samuel Paty, comme dans notre affaire, par un mensonge d'une adulte qui a été relayé par les réseaux sociaux, dans les conditions que vous connaissez. Et ces réseaux sociaux, avec des personnages qui sont diffusés à travers toute la France, se lancent dans des propos et des menaces de mort. Dans l'affaire Samuel Paty, malheureusement, c'est allé jusqu'au bout. C'est pour ça que, bien sûr, il doit être mis en sécurité. Il se sent pour l'instant en sécurité. Et le fait que le Premier ministre l'ait appelé il y a quelques jours est aussi important. Moi, je trouve ça peut-être tardif de la part du gouvernement. Ça pouvait être intervenu avant, mais en tout cas, c'est essentiel.
Les opérations anti-drogue PlaceNet se poursuivent en France. Ce jeudi, c'est dans la ville de Dijon que des dizaines de policiers et gendarmes ont traqué les trafiquants de drogue. Gérald Darmanin s'est d'ailleurs rendu sur place pour suivre cette opération. Mais alors concrètement, comment cela se passe-t-il sur place? Nous avons pu exceptionnellement embarquer avec les policiers. C'est un reportage exclusif CNews. Signé Augustin Donadieu, Mickaël Dos Santos et Fabrice Elsner. Regardez.
Allez les gars, on y va.
Le top départ est donné. Il ne faut pas laisser le temps aux dealers ou aux éventuels clients de prendre la fuite. Deux personnes sont rapidement repérées, puis contrôlées.
Vous êtes connu, les services de police?
Non.
Jamais interpellé, jamais dit rien
vu? J'étais mineur.
Ouais, c'est quelque chose.
J'étais pas ici, j'étais en Guyane.
Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave.
En l'absence de drogue et d'argent sur eux, ils seront relâchés après un simple contrôle d'identité. Le quartier Fontaine-Douche à Dijon est dorénavant cerné par les forces de l'ordre.
Est-ce que vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît, c'est la police.
Aucun recoin, aucune cache n'échappera au flair des 7 chiens entraînés à trouver des stupéfiants, des billets ou encore des armes.
Mais bon, elle marque. On va aller chercher.
Hop là. C'est bien fini.
Ouais.
Après avoir minutieusement inspecté les caves, les policiers montent dans les étages et tombent sur des habitants ravis de leur présence.
Eh ben, ça sécurise, hein. Vous savez que si le gouvernement donnait plus de pouvoir aux policiers, ben, je vous garantis, il n'y aurait pas ce qui se passe.
On voit qu'au moins on a de la sécurité. Voilà, ils nous protègent pour notre sécurité, comme je disais, parce que sortir dans l'avenue du lac, ça fait peur maintenant.
Pourtant, la police l'assure, elle mène quotidiennement des actions dans ces quartiers, rongés par le trafic de drogue et l'insécurité.
Les effectifs sont très investis, on est très investis. Nous y sommes tous les jours dans tous les quartiers de l'agglomération dijonnaise. Mais là, étant donné qu'on a beaucoup d'effectifs, c'est du harcèlement des points de deal en XXL.
Cette opération Place Net XXL à Dijon aura mobilisé une soixantaine de policiers et gendarmes durant une après-midi. Une demi-journée durant laquelle habitants et commerçants ont retrouvé calme et sécurité.
Nos envoyés spéciaux à Dijon ont pu se rendre dans un immeuble utilisé justement pour le trafic de drogue. Et vous allez voir que les dealers ont pris possession des lieux sur place alors que le bâtiment a été rénové il y a un peu plus d'un an seulement. Des tags contre les forces de l'ordre recouvrent les murs et des déchets ou encore des mégots de cigarettes recouvrent le sol. Un quotidien forcément insupportable pour les habitants sur place. Mickaël Dos Santos, Fabrice Elsner.
Ici, on est dans un hall d'immeuble qui a été rénové il y a un peu plus d'un an maintenant. Et je voulais vous montrer l'état dans lequel se trouve ce hall d'immeuble. Ici, nous avons... Vous voyez une partie commune qui est vraiment, on peut le dire, insalubre, avec de nombreux déchets. On peut voir des boissons, des mégots de cigarettes, des restes aussi d'aliments. Donc vous voyez vraiment cette insalubrité ici dans ce hall d'immeuble. Et puis on va poursuivre, vous montrer ce hall d'immeuble avec de nombreux tags. Alors sur ces tags, on peut lire bien sûr des messages en direction des forces de l'ordre, des messages d'insultes, des messages aussi destinés aux quartiers, aux autres quartiers de Dijon. Donc vous voyez aussi des messages adressés à des dealers qui auraient été enfermés en prison, libérés tel ou un tel. Voilà, c'est des messages qu'on peut lire ici dans ce hall d'immeuble. Une boîte aux lettres, des boîtes aux lettres qui ont été fracturées, endommagées, qui servent parfois aussi à stocker de la marchandises pour des dealers qui, bien sûr, depuis le début de cette opération Place Net, ne sont plus présents ici. Ils ont déguerpi. La Place Net fonctionne puisqu'elle est nette, effectivement, cette place. Il n'y a plus de marchandises. Pour le moment, il n'y a pas de stupéfiants qui a été retrouvé. On a pu retrouver un peu de résine de cannabis, des plaques d'immatriculation aussi de véhicules volés, des clés de voiture, des marteaux. Voilà ce qu'on a pu retrouver pendant cette opération Place Net. Et puis pour terminer, on va se diriger voilà au niveau des escaliers. Alors là, vous voyez, c'est une lumière rouge qui a été tamisée pour que les dealers puissent vendre leurs marchandises sans être dérangés par les forces de l'ordre. Et là encore, au moment où je vous parle, le sol est dans un état catastrophique, le sol colle, voilà, il y a des réels problèmes d'hygiène, sans parler bien sûr de l'ascenseur qui se trouve juste derrière Fabrice Elsner et qui est endommagé lui aussi et qui empêche les habitants tout simplement d'accéder à leur logement. Donc voilà l'état dans lequel se trouve ce hall d'immeuble qui, je vous le rappelle, a quand même été rénové il y a un an et demi et qui coûte énormément d'argent aux habitants. Des habitants qui souhaitent parfois déménager mais qui ne peuvent pas le faire car ils ont fait des emprunts pour pouvoir payer leur logement et donc ils se retrouvent dans une situation où ils sont bloqués par ce trafic de drogue ici à Dijon.
Et toujours dans ce contexte de trafic de drogue, cette question, faut-il envoyer l'armée dans le quartier des Moulins à Nice? La demande a été formulée mercredi par le premier adjoint au maire de la ville. Alors que l'insécurité liée au trafic de stupéfiants est devenue intenable sur place. Franck Trivio, Adrien Spiteri.
Lundi soir, dans le quartier des Moulins à Nice, aux abords d'un point de deal, des coups de feu sont tirés. Mardi, c'est un affrontement d'une rare violence qui éclate sur la place des Amaryllis. Face à cette situation, la CRS 81 a été déployée sur place. Une présence nécessaire mais insuffisante pour de nombreux riverains.
On pourrait peut-être envisager d'envoyer l'armée de manière même provisoire dans ces endroits pour faire établir l'ordre et la loi.
La police, on sait qu'elle a souvent des problèmes quand elle intervient. Est-ce que la force sentinelle, c'est une bonne solution? Je pense que oui, ça peut remettre de l'ordre dans ces quartiers, mais avant tout, il faut que la justice intervienne.
Le déploiement de l'armée, la municipalité de Nice y est favorable. Elle se dit prête à mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité, alors que la situation se dégrade de jour en jour dans le quartier.
Ça fait 40 ans que je suis dans le quartier, mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus notre époque, c'est fini. C'est fini. On a honte. Voilà, c'est tout. On regarde et on ne peut rien faire. Voilà, on subit.
Excédés par la violence et le trafic de drogue, certains habitants assurent ne plus vouloir se laisser faire.
On en vient à cette question. Dans quelle mesure craignez-vous un nouvel attentat en France dans les semaines ou les mois à venir?
Et bien sur une échelle de 0 à 10, les Français ont répondu en moyenne 7 sur 10. Vous allez le voir à l'antenne dans un instant. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le Journal du Dimanche. Alors les Français ont-ils raison de s'inquiéter aujourd'hui? Quel est l'état de la menace terroriste en France? Les toutes dernières informations de Sandra Buisson du service police-justice de CNews.
Selon nos informations, et cela faisait partie du rendez-vous de Gérald Darmanin ce jeudi à la DGSI, l'attentat qui s'est produit en Russie fait craindre l'action sur notre territoire de copycat, chez qui la médiatisation de l'attaque pourrait déclencher un passage à l'acte, d'autant plus au moment des fêtes de Pâques. Depuis plusieurs années, la menace principale en France est la menace endogène venant de gens qui sont en France, agissant avec des moyens peu élaborés, des profils assez jeunes ces derniers mois qui sont inspirés ou influencés par la propagande. Propagande djihadiste de groupes terroristes avec lesquels ils n'ont aucun contact direct. L'autre menace, c'est qu'une organisation terroriste téléguide active à distance une ou plusieurs personnes qui se trouvent déjà sur notre territoire. Enfin, depuis un peu plus d'un an, il y a un retour de la menace de commandos projetés depuis les pays où sont retranchées les organisations terroristes. Un nouveau Bataclan est possible, le ministre de l'Intérieur l'a dit à l'automne dernier, car l'État islamique et Al-Qaïda ont la volonté d'envoyer des djihadistes pour frapper en Europe, mais les autorités françaises estiment qu'en l'état, ces groupes n'ont pas les moyens de le faire. Quant au danger que représentent les sortants de prison condamnés pour terrorisme, cela reste une préoccupation majeure des services de renseignement qui suivent tous ces détenus dès la sortie de détention, et cela en fonction de leur dangerosité. Selon une source sécuritaire, environ deux tiers de ces individus sont désengagés quand ils sortent, c'est-à-dire que des preuves suffisantes montrent qu'ils ont rompu avec l'idéologie djihadiste.
Plusieurs nations étrangères, dont la Pologne, vont envoyer des soldats pour aider à sécuriser les Jeux Olympiques de Paris. Un renfort alors que la France est en alerte maximale, bien sûr, face à la menace d'attentat. Et selon le ministère des Armées, les besoins sont conséquents dans plusieurs domaines, dont celui des capacités cynophiles. À l'approche des JO de Paris 2024, le RAID s'entraîne au scénario d'une tuerie de masse. Un exercice réalisé à l'école de police de Draveil, qui se situe dans l'Essonne, théâtre la semaine dernière d'une simulation d'attaque terroriste. Grandeur nature, voyez les images commentées par Mathieu Devez.
Début de l'entraînement. Quatre assaillants équipés de fusils d'assaut pénètrent dans un bâtiment. Très vite, les forces du RAID se mobilisent. Une colonne d'hommes noirs avance derrière un véhicule blindé. Quand ils arrivent sur les lieux, les policiers sont déjà sur place. Il faut alors collaborer pour localiser les assaillants, identifier le nombre d'otages et de victimes.
C'est comment tout s'articule en fait qui nous intéresse. Et comment on intègre tout ça, l'action de secours, puisque dans un premier temps c'est la police qui est menante et les pompiers qui sont concourants, et au bout d'un moment ça peut s'inverser.
Avant l'assaut, tout le site est inspecté grâce à des drones. Le RAID peut alors intervenir. Après avoir neutralisé les assaillants, il découvre une quinzaine d'otages. Ils sont fouillés avant d'être libéré.
Donc là, on est venu s'intégrer dans une formation pour les tueries de masse et on a pu jouer l'intégralité du scénario, du début de l'attaque jusqu'à la neutralisation totale des quatre preneurs d'otages, avec libération d'otages et prise en compte des blessés.
Pendant les Jeux Olympiques, 200 membres de l'unité d'élite seront mobilisés chaque jour, dont une centaine lors de la très sensible cérémonie d'ouverture sur la Seine.
Près d'une semaine après l'attentat de Moscou qui a fait au moins 143 morts, eh bien la Russie accuse une nouvelle fois l'Ukraine de cette attaque. Les enquêteurs russes affirment que les auteurs de l'attaque avaient des liens avec les nationalistes ukrainiens. Et de son côté, Kiev dément une nouvelle fois toute implication dans ce massacre. Je vous propose d'écouter la porte-parole justement du comité d'enquête russe.
Après avoir travaillé avec les terroristes détenus, examiné les dispositifs techniques saisis et analysé les informations sur les transactions financières, des preuves de leur lien avec les nationalistes ukrainiens ont été obtenues. L'enquête a permis de confirmer des données selon lesquelles les auteurs de l'attaque terroriste ont reçu depuis l'Ukraine d'importantes sommes d'argent et des crypto-monnaies qui ont été utilisées pour préparer le crime.
Dans le reste de l'actualité, le Haut-Vernay revit la disparition du petit Émile pour tenter de percer le mystère. Sa famille, des voisins et des témoins se sont réunis sur place ce jeudi pour une mise en situation. Au total, ce sont 17 personnes qui ont été convoquées par la justice pour reconstituer le moment où l'enfant de 2 ans et demi a disparu. C'était le 8 juillet dernier. Clotilde Paillet avec Célia Barotte.
Une centaine de gendarmes, des enquêteurs et un village interdit d'accès par arrêté préfectoral.
Un dispositif de sécurité important, avec pour objectif faire avancer l'enquête.
L'objectif de la mise en situation, c'est de retracer de manière chronologique la soirée du 8 juillet dernier et de pouvoir confirmer ou infirmer les éléments qu'ils ont pu recueillir pendant leur enquête lors des 9 derniers mois.
Depuis la disparition du petit Émile le 8 juillet dernier, un climat pesant s'est installé au hameau. Les habitants du Haut-Vernay vivent entre angoisse et espoir.
J'angoisse un peu. On ne sait pas ce qui a pu se passer. Mais vous pouvez tomber sur quelque chose sur lequel vous ne devriez pas tomber, quoi. Donc c'est pas facile, quoi.
Pour le maire du village, tout est encore possible pour trouver les circonstances de la disparition.
Depuis le mois de juillet, on a l'espoir, on sait qu'il y a des investigations très poussées qui sont menées notamment par gendarmerie, et on espère qu'elles aboutiront à la découverte, la manifestation de la vérité.
Cela va faire bientôt 9 mois que le Haut-Vernay est figé dans l'attente, avec l'espoir de trouver une piste dans la disparition d'Émile.
Et enfin, les chiffres sur la fraude à l'assurance maladie sont tombés ce jeudi et ils sont édifiants. Selon la Caisse nationale, 466 millions d'euros de fraude ont été détectés par les services de l'État. Les précisions de notre journaliste économie à CNews, Éric de Ritmaten.
Ah oui, cette fraude à la sécurité sociale, elle ne fait que de progresser, à croire qu'il y a de plus en plus de fraudeurs. 466 millions d'euros ont été détectés l'an dernier, c'est 50% de plus en l'espace d'un an. Alors que s'est-il passé? Principal responsable, le 100% santé. Et oui, il y a des abus là-dessus, notamment avec la vision, les lunettes qui sont remboursées à 100%, les audioprothèses. Rendez-vous compte qu'il y a eu 5000 entreprises nouvelles qui se sont créées l'an dernier, spécialisées en pose de systèmes audioprothèses. Incroyable. Alors, il y a aussi après les traditionnelles escroqueries autour des faux arrêts de travail, ça coûte cher à la sécu. Mais la traque continue. Ça se passe aussi beaucoup sur Internet avec les fausses ordonnances qui circulent. Résultat, 1500 agents, des cyber-enquêteurs qui sont carrément sur le net. Et puis, quand on dit fraude, chasse, on détecte 466 millions d'euros, ça paraît pas beaucoup au regard des chiffres de la Cour des comptes qui parlent de 3 milliards. Alors le directeur de l'assurance maladie répond: ne vous inquiétez pas, on n'est pas au bout du chemin, ça va continuer et en 2027, on aura pratiquement les chiffres de la Cour des comptes. On aura récupéré 2,7 milliards si tout va bien. Mais c'est quand même la preuve qu'en France, eh bien, la fraude et les abus à la sécu continuent.
Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et la Ligue des champions féminines. Ce jeudi, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales. Après une victoire très facile, 3-0 face au Bekia Aiken. Déjà victorieuse en Suède au match aller, les Parisiennes se hissent dans le dernier carré européen. Et ça sera une demi-finale 100% française puisqu'elles affronteront l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnaises qui ont déjà remporté à 8 reprises cette Coupe d'Europe, le PSG comme chez les hommes, court toujours derrière son premier succès. On va maintenant en Angleterre avec la Première Ligue. Énorme choc ce week-end entre Manchester City et Arsenal dans la course au titre. Pour l'instant, les Gunners occupent la première place devant Liverpool et les Citizens. Les hommes d'Arteta espèrent remporter leur premier titre de champion depuis 2004. Vincent Petitpès.
20 ans après, c'est peut-être le moment, celui de ramener enfin la Première Ligue à la maison. À 10 journées de la fin, Arsenal est leader et en bonne position pour remporter un premier titre de champion depuis celui des fameux Invincibles de 2004. Mais en 20 ans, les Gunners ont déjà raté certaines opportunités. À 3 jours du choc face à Manchester City sur Canal+, qu'on soit supporter, entraîneur ou ancienne gloire, on rêve avec une certaine prudence.
We knew that we had some big steps to make because of the competition and the level that at the moment requires the Premier League to be where we are right now. But we've been really consistent and looking forward to what's next.
Moi, ce que je veux, c'est que Arsenal soit champion. Et que tous les joueurs de 2004 soient invités et puis qu'on fasse une photo, puis justement qu'on puisse transmettre le témoin. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller fêter le titre avec eux, avec cette nouvelle génération.
And bring me that energy and put a candle in your home and be with us.
So we'll be down there on the last game of the season with you. That's the dream. Celebrating.
That's the dream. For sure, that's the dream.
Et on termine ce journal des sports avec du rugby et le grand retour de Romain Ntamack. Après plus de 7 mois, alors loin des terrains, le demi d'ouverture toulousain voit enfin le bout du tunnel. Ntamack avait bien sûr raté la Coupe du Monde à cause d'une rupture du ligament croisé au genou gauche. Le numéro 10 du Stade Toulousain devrait donc faire son retour. Ça sera contre Pau ce week-end en top 14. Le récit de Romain Favry.
Le rendez-vous est pris. Il va pouvoir ressentir l'odeur d'une pelouse de top 14.
Romain sera dans le groupe ce week-end pour la réception de la section paloise.
Le week-end dernier, Romain Tamac avait fait le déplacement à Bordeaux, mais il était le 24e homme et donc absent de la feuille de match.
Franchement, tous les signaux sont au vert depuis un moment. Ça a très bien travaillé, il a été bien accompagné, ça a suivi son plan. Pour le moment, tout est nickel, il n'y a pas de raison que ça continue pas ainsi. Mais sincèrement, il est très bien, il envoie des signaux très positifs, ses retours à lui sont bons. Donc
c'était le bon moment, 7 mois et demi après sa grave blessure au genou qui l'avait privé de Coupe du Monde. 9 mois après sa dernière apparition en top 14, c'était en finale avec cet essai génial qui offrait le titre rouge et noir.
Forcément, il a dû avoir des moments compliqués, mais... il est solide, il est prêt mentalement, physiquement et ça fait plaisir qu'il puisse bientôt retourner sur les terrains.
Le bon moment aussi pour Toulouse qui désire un accès direct aux demi-finales de top 14 et avant le retour de la Coupe d'Europe le week-end prochain.
Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. L'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel est aujourd'hui en sécurité. C'est ce qu'a affirmé son avocat ce jeudi soir sur notre antenne. Son client qui a quitté ses fonctions reste bien sûr marqué par ce qu'il s'est passé. Vous l'entendrez, maître Francis Lecq, dans un instant dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews. Et je vous dis donc à tout de suite pour un prochain journal.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.